Ambassadeur, c'est l'heure.
Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio.
Live de Québec.
Je n'ai pas reçu ce message.
Dans ton app, dans ta radio, c'est Marceau.
Marceau le midi.
Salut! Bon mardi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Merci d'être là, les amis. Mon nom, c'est Yann Marceau. J'accompagne jusqu'à 14h en compagnie de Pascal CV, qui a les yeux pétillants aujourd'hui.
Non, mais je t'en forme.
Ah oui?
Toi, t'es un peu dans le schnoute.
Comment?
T'es un peu dans le schnoute.
Pourquoi?
Parce que quand je m'entraîne de façon régulière,
oui,
j'ai deux fois plus d'énergie que j'en ai habituellement.
Et c'est moi qui devrais subir?
Oui, parce que ça a officiellement commencé ce matin, cet entraînement-là. Entraînement sévère, entraînement chaleureux.
T'étais au Tonic Gym avec ton entraîneur privé maintenant?
Oui, j'ai rencontré Javier! Oui, c'est un Colombien de 6'3", dans le fond, prof d'éduc en Colombie, mais entraîneur personnel depuis des années au Québec. Il est en forme.
V'là 2 jours, elle apprenait l'italien et là, tout d'un coup, on transfère vers l'espagnol.
Mais je connais l'espagnol.
Ah, tu connais l'espagnol?
Oui, il me disait des petits mots, là, puis je disais, oui, je te suis.
Oui? Oui. T'as-tu fait tous les exercices?
Mais là, c'était plus gênant un peu ce matin, parce que là, il prend tout ce côté, là.
Tes dimensions?
Puis, pas les dimensions, mais mettons...
ton poids?
Ton poids, ton gras.
Ton taux de gras.
Versus ton muscle, sur toutes les parties de ton corps.
Fait que t'as tout vécu ça matin.
Oui, ça a été beaucoup d'émotions.
Fait que t'as plus de cachette à lui faire.
Écoute, si j'avais à lui mentir, mon petit programme dirait le contraire. Hey, mais c'est tellement technologique.
Ben
là,
oui.
Ça me fascine, honnêtement. Il est capable de voir dans la cuisse gauche, maintenant, par rapport à la droite, c'est quoi mon pourcentage de gras, c'est quoi mon pourcentage de muscle, où est-ce que ça pèse plus, qu'est-ce qu'on peut aller raffermir, qu'est-ce que ça va donner quasiment visuellement.
Là, t'as combien de temps avant de monter le Kilimanjaro? Là?
On est en février, mais mettons, on a fini le mois. Là,
puis là ils te font un programme pour cette ascension-là.
6 mois.
T'as 6 mois pour l'ascension.
Ouais.
Okay.
Majoritairement en endurance. Fait que, tu sais, je vais m'entraîner musculairement pour que mes muscles soient capables d'en prendre de façon peut-être un petit peu plus intense que d'habitude.
Ouais.
Parce que juste la descente, je te le disais, c'est 18 heures one shot. Fait que sur les articulations, si t'as pas des bons muscles, tu vas te scraper le corps. Fait que c'est... Mais à travers tout ça, ça va être des longues marches. Ça va être, si tu veux venir marcher avec moi, là, je sais que t'aimes bien ça courir, là, mais si vous voulez aller faire du hiking ou autre, là, c'est en plus de mon entraînement.
Ouais, je pense que j'ai d'autres choses à faire.
Puis j'ai pensé à toi, ce qu'il m'a dit. Ouais, il marchait avec moi pendant 7 heures, ça me tente pas, ben, je suis sûr.
J'ai un rave.
Ah, ouais, à chaque rave, fois que je vais marcher avec
lui. Ballon blanc, je pense.
T'as à boire, c'est rendu populaire, ça, c'est revenu.
Ouais.
Il m'a dit, t'as-tu un autre objectif que le Kili? Tant qu'à ça, il dit, oh, on va regarder ça. J'ai dit, tu vas rire, mais peut-être lancer plus fort au dodgeball.
Ah oui, tu vas lui demander une technique pour ça,
la
parfait.
Voilà.
Gros show aujourd'hui dans Marceau le midi. Pat Raymond va être là du podcast Financièrement parlant. On va parler des millennials et de la génération Z. Est-ce qu'ils peuvent bâtir leur richesse sans posséder une maison?
Tellement
on va se poser la question. Denis Gravel va être là aux alentours de midi pour le pit stop. Et on débute avec Charles-Éric Lamarche, notre expert en aviation, puisque hier, à l'aéroport Pearson de Toronto, il y a eu un crash d'avion qui... Ça arrive très peu souvent, là, ce type de crash-là.
Mais ta première réaction?
Ben, en fait, ma première réaction, c'est la première fois de ma vie que je vois un avion qui arrive sur le dos comme ça, sans exploser. Bon, on va en jaser avec Charles-Éric à l'instant. Salut, Charles-Éric!
Hey, salut, bon après-midi.
Bon après-midi. On voit l'approche dans la vidéo, puis by the way, on vous l'a mis sur la page Facebook de Boulevard. Là. On voit l'approche de l'avion sur la vidéo, on voit l'avion atterrir, on voit qu'elle fait un genre de bond lorsqu'elle atterrit. Par la suite, elle commence à glisser sur le côté, et là, il y a une aile d'avion qui décroche et l'avion se met directement sur le dos. De ton côté, toi, là, est-ce que c'est la première fois de ta vie que tu vois ça? Je veux dire, moi, je suis l'aviation depuis peut-être mes 10 ans. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Bien, surtout un accident de cette ampleur-là avec pas de mort de ce genre-là. C'est sérieusement, là, quand j'ai vu ça hier et j'ai vu un peu le résultat de tout ça, je l'ai classé dans mon tableau Excel là, dans les petits miracles de l'aviation. C'est tout fait tout simplement phénoménal. On a vu ça déjà, si je me souviens bien, là, un peu un comportement semblable d'un avion en Arkansas, Little Rock, il y a eu plusieurs années de ça, et malheureusement, ça a été que des décès, là. Mais de voir l'ampleur de l'accident, de voir la solidité de la carlingue qui est restée complètement intacte, et le travail de sortir, d'évacuer tous ces gens-là, c'est magnifique. On avait des conditions qui n'étaient pas faciles à Toronto hier. C'était très venteux, mais c'est des conditions comme on a souvent au Canada.
Ben, c'est ça qui m'a
Alors là.
surprise, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mais à cause de la tempête et tout. » Puis moi, j'avais l'impression que quand j'ai vu ça hier, ça m'a saisi. J'avais l'impression qu'on était quand même très en sécurité, puis que si les conditions n'étaient pas bonnes, ben on prenait pas le vol, puis on prenait pas les airs tout simplement, là.
Non, absolument. Donc, c'est pour ça que l'enquête est très importante et ce qui est très rassurant aussi dans cette enquête-là qu'on va avoir, c'est qu'on a les deux pilotes qui sont en bonne santé, qui vont pouvoir répondre à des questions rapidement. Donc, avoir leur point de vue rapidement sur ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'il y a eu, bon, ben, quand on a des conditions comme ça avec des rafales de vent, est-ce qu'il y a eu un cisaillement de vent? Un cisaillement de vent, c'est une variation soudaine de la direction et ou de la force du vent. Et on le sait, les avions se posent toujours avec le nez dans le vent. Donc, est-ce que soudainement, on s'est retrouvé avec une baisse rapide du vent qui fait que l'aéronef perd de sa vitesse, qui la garde en sustentation, donc qui l'aide à créer sa portance? Et là, on a eu soudainement une perte de portance. Ça se peut que ce soit ça.
Est-ce que ça
Et
pourrait être,
on
on est dans les hypothèses, là, Charles-Éric, est-ce que ça pourrait être de la turbulence de siège? Parce qu'il y a un aéronef qui a atterri juste un peu avant. Normalement, les contrôleurs aériens contrôlent cette fameuse turbulence de siège-là.
C'est quoi ça?
C'est le vent qui est propulsé en dessous de l'avion. Puis dès
ouais,
qu'il
c'est
sort
des
derrière l'avion, ça fait un tourbillon.
OK.
C'est ça, c'est les tourbillons de vent créés par la portance d'un avion qui est devant. Il y a des séparations que les contrôleurs là, gardent, avertissent aussi là, souvent les appareils lorsqu'ils sont sur l'atterrissage de la possibilité de turbulence de sillage. Rien n'est écarté à ce moment-ci, là. Absolument rien n'est écarté. Alors, mais c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir rapidement le point de vue de l'équipage.
Ouais.
On va avoir, comme la carlingue est en bon état, c'est facile de retrouver les boîtes noires, d'avoir accès, de faire parler ces boîtes noires-là. Donc, on aura de l'information très, très, très rapidement.
Je me sens mal de poser une question. Parce qu'on parle souvent de
Vas-y.
camionnage. Yannick, il m'a amené une information de ses informateurs secrets sur la route, comme quoi, des fois, il y a des délivrances de permis très, très faciles parce qu'il y a eu pénurie de main-d'œuvre et autres, immigration, peu importe. C'est un mélange que vous devez suivre, Yannick. Là, il parle souvent avec Truck Stop Québec. Il pourra vous réexpliquer ça. Mais en aviation, est-ce qu'on a cette problématique-là en ce moment d'avoir à mettre peut-être des pilotes un peu moins expérimentés dans les airs parce qu'on manque de main-d'œuvre?
Bien, oui, on a subi une pénurie de main-d'œuvre. Par contre, l'entraînement est le même. L'entraînement est le même. Et oui, on se retrouve avec des pilotes avec peut-être un peu moins d'heures de vol. Mais quand même, pour piloter ce genre d'avion-là, ça prend quand même là, plusieurs, je dirais même plusieurs centaines, plusieurs milliers d'heures de vol. Plusieurs centaines, c'est pas une grande, grande, grande expérience, mais à plusieurs milliers d'heures de vol, là, on commence à en avoir vu pas mal. Donc, oui, il y a eu un petit changement, mais en même temps, on a des avions qui sont de plus en plus technologiques, qui sont bien équipés pour aider nos pilotes à contrer ce genre de météo-là qu'on pourrait rencontrer. Mais encore là, est-ce que c'est la météo? Est-ce qu'on a eu un problème avec l'avion?
On
Qu'est-ce qui
s'appuie
s'est
trop
passé?
là-dessus.
Ça, on a hâte de le voir. Moi, ce qui m'a impressionné, par contre, et ce à quoi j'ai pensé, c'est les agents de bord. Vous en ignorez, tu sais, et là, on n'est pas prêt à un atterrissage d'urgence. Hein. Ce n'est pas une situation où est-ce que notre état d'esprit est prêt. On s'en va sur un atterrissage régulier et tout d'un coup, on se retrouve la tête en bas. Avec de la boucane, avec un incendie qui est prêt, et là, il faut évacuer. Alors, nos agents de bord, et on en parlait un peu avant d'entrer à Nantes, Yannick, on appelait ça dans le temps les hôtesses de l'air. Hein? Donc, la gang qui vient nous porter un drink et un petit biscuit, un petit repas, c'est pas juste ça.
Ouais.
C'est accessoire, ce
Il
côté-là.
y a des gens qui avaient des
C'est.
préjugés à l'époque qui disaient les hôtesses de l'air sont embauchées pour ce qu'ils ont de l'air plutôt que ce qu'ils sont réellement. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout, là. C'est rendu
Vous
des
devriez
professionnels.
voir, oui, vous devriez voir l'entraînement par lequel elles passent et ils passent pour réussir leur formation d'agent de bord. Leur première préoccupation, leur premier rôle, c'est d'être responsable de votre sécurité à bord. Et c'est là que ça embarque. Ils sont entraînés de façon extrêmement rigoureuse, avec des standards très élevée aussi, comme nos pilotes aussi. Et ils ont de la simulation aussi de situations d'urgence. Mais est-ce qu'on s'entraîne pour évacuer un avion avec la tête à l'envers?
Jamais.
Non. Alors là, la mécanique d'ouvrir une sortie d'urgence, placer sa main en haut, la main en bas, tirer de telle façon, là, il faut le faire complètement à l'inverse, en gérant la panique dans l'avion, en gérant comment on sent nous, est-ce qu'on s'est blessé, on s'est-tu cogné la tête. Donc, c'est tout ça à gérer et tout ça s'est fait très rapidement, très bien. Puis, on a évité que des gens soient blessés ou même par l'incendie. Donc, on a évacué très, très, très rapidement. Et les équipes d'urgence au sol aussi ont été super rapides sur l'intervention, vraiment, là. Alors, moi, le travail des agents de bord hier, je pense que c'est eux autres qui méritent tout notre respect ce matin, là,
Ouais.
avec comment ils ont réagi, comment ils sont intervenus.
Tu fais bien de le souligner, Charles-Éric. Je voulais savoir, parce que quand on regarde la vidéo, puis pour ceux qui ne l'ont pas vue encore, elle est sur la page Facebook de Boulevard, on voit qu'il y a un incendie qui est créé par le fait que l'avion s'écrase. Dans ce type d'avion-là, rappelle-moi, là, l'essence est vraiment dans les ailes.
Oui, exactement. Les réservoirs sont dans les ailes.
Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas explosé?
Ben, ça l'a pris feu quand même. Et là, on est à l'atterrissage normalement aussi. L'atterrissage, évidemment, on est à un moment du vol où on a moins de carburant à bord. Donc, la quantité n'était pas si imposante que ça. Tout dépendant de leur routing, des fois, on en transporte un peu plus parce que peut-être que d'où est-ce qu'on part, le carburant est un peu moins cher. Par contre, je peux vous dire, au Minnesota, c'est un des endroits où le carburant d'aviation est très, très cher. Donc, probablement qu'on est parti avec la quantité minimum pour en reprendre plus à partir de Toronto. Donc, on est arrivé avec une quantité qui était probablement pas aussi, pas très grande quantité d'essence, là.
OK, mais je trouve ça intéressant parce que, advenant le cas où un pilote sait que ça va être un atterrissage d'urgence puis il y a un risque de crash, il peut libérer l'essence dans les airs. Bon, je m'excuse pour les environnementalistes, là, mais il peut libérer son essence qui fait en sorte qu'il va atterrir avec pratiquement pas d'essence dans les ailes de l'avion.
Mais pour pas qu'il y ait de feu qui prenne de l'ampleur.
Mais le but de faire ça, de libérer de l'essence, à la base, c'est de réduire le poids de l'appareil. Donc, souvent, lorsqu'on fait ça, c'est lorsqu'on a un problème, par exemple, au décollage, où est-ce que là, on a plein de carburant et souvent, on va décoller et on a un poids maximum au décollage à respecter. On a un poids minimum ou maximum aussi à l'atterrissage à respecter. Donc, souvent, le poids superflu qu'on peut se débarrasser pour atteindre notre poids maximum à l'atterrissage, c'est le carburant. Donc, c'est pour ça que souvent, lors des situations d'urgence, pour rendre l'avion à son poids minimum, pour éviter les dommages, son poids maximal, pardon, à l'atterrissage, là, on va vider du carburant ou parfois, même si on est capable de maintenir l'avion en l'air, ben, on va tout simplement faire des circuits d'attente pour brûler du carburant. On l'a vu à un moment donné, là, c'est JetBlue, je pense, qui était décollé de Long Beach, en Californie. La roue de nez est restée à 90 degrés.
Oui.
Par rapport à l'appareil. Ils venaient de décoller, ils avaient quand même beaucoup de carburant. Ben, ils ont tourné pendant pratiquement 2 heures pour brûler du carburant et éventuellement venaient se poser en sécurité parce que l'avion, c'était pas problématique de la garder dans les airs. Donc, au lieu de vidanger du carburant, on a préféré le brûler tranquillement, peut-être essayer d'autres options, voire aussi prendre le temps de troubleshooter, comme on dit en anglais. Donc, aller voir c'est quoi le problème, est-ce qu'on est capable de le gérer, est-ce qu'on est capable de réparer en vol. Et à ce moment-là, se poser. À ce moment-là, nous, ben, on était sur l'approche. Et tu sais, Yannick, on se l'est dit souvent, les deux endroits où on est très vulnérable dans un vol, c'est au décollage et à l'atterrissage. Parce qu'on n'a pas d'altitude et on n'a pas encore beaucoup de vitesse. Donc, pour créer de la portance, ça prend de la vitesse. Pour créer du temps en vol, ça nous prend de l'altitude.
Est-ce que les pilotes ont pu jouer un rôle extrêmement précis là, du fait qu'on n'a pas eu de la tragédie escomptée, c'est-à-dire tout le monde est mort? Est-ce que les gars ont eu le temps de faire des manœuvres d'urgence? Parce qu'à l'atterrissage, on le voit clairement, ils atterrissent relativement assez fortement, là. Ça a fait un gros boom à ce qu'on nous a dit là, à l'atterrissage. Est-ce que les pilotes ont eu le temps d'éteindre les moteurs pour essayer de limiter le plus possible les dégâts?
Probablement pas. Ils ont été probablement aussi surpris par ce qui se passait. Et là, voyons, encore là, on spécule.
Ben oui.
On va voir qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais ça se passe extrêmement rapidement, là. C'était une histoire de fraction de seconde. Alors, ils ont été probablement autant surpris. Et à ce moment-là, dès que l'aile se sépare, ben, on n'a plus aucun contrôle, là. Sur ce qui se passait. Est-ce que à la dernière minute, ils ont essayé de faire une remise des gaz, voyant peut-être que la vitesse s'est mise à diminuer drastiquement? C'est ça seulement l'enquête là, qui va nous le dire à ce moment-là.
On soit tellement tête.
Mais,
oui, vas-y, vas-y, Charles-Éric.
C'est, encore là, je le dis, moi, je l'ai classé dans mon petit miracle de l'aviation. Je garde ça dans ma colonne-là, puis c'est extraordinaire ce qui s'est passé, malgré tout.
Il y a des gens qui nous écrivent, puis qui ont comme peur, c'est sûr que ça alimente une certaine crainte là, de prendre l'avion. Beaucoup disaient j'avais l'impression que c'était plus sécuritaire qu'une voiture et tout. Quand je vois ça, ça me ramène à une crainte que j'avais mis très, très, très loin dans mon petit bagage. Tu penses quoi de ça, Charles-Éric?
Je le dis, puis à chaque fois qu'on se parle sur un accident, je dis toujours la même chose. Ayez confiance en votre aviation, c'est toujours le moyen le plus sécuritaire de voyager. Moi, je m'en vais avec nos enfants à la relâche. On s'en va en voyage, j'embarque sans aucun problème. Demain matin, je le sais que notre aviation, on a des professionnels qui sont là. Je sais qu'on a des procédures, on a des entraînements. On n'est pas parfait, ça c'est sûr et certain, mais c'est toujours le moyen de transport le plus sécuritaire. Hier, j'étais sur la route, un peu dans la tempête, puis j'aurais préféré avoir les fesses dans un avion que sur la 40 en train de conduire. Ça, ouais. Je vous le garantis.
Je pense que ce qui fait en sorte qu'on a plus peur de l'avion, c'est qu'on perd tout contrôle. On s'assoit dans le siège puis on fait confiance au pilote, tandis que dans la voiture, on a l'impression qu'on peut avoir un certain contrôle. Mais moi, je me rallie de ton côté, effectivement. C'est pas le plus sécuritaire se promener en avion que se promener
ben oui.
En voiture.
Mais Robert,
oui. On parle de l'accident aujourd'hui ou de l'accident d'hier, mais on parle pas des 55 000 mouvements en Amérique du Nord qui se sont passés sans aucun problème.
Exact.
Puis en même temps, rendu là, quand tu es dans l'avion, Yannick, si tu commences à être stressé puis à avoir peur, c'est là que ça n'a pas de sens, c'est ironique. Tu n'as aucun contrôle.
C'est ça.
Faut que tu te dises, ben, au pire, ça va être fini. C'est pas toi qui vas aller à la console du pilote.
Puis le pire, c'est que je me mettais tout le temps proche des ailes parce que je me disais, si jamais il y a un crash, moi, j'étais le premier à crever, fait que je souffrirais pas. Puis là, ben là, ça pète plus, là.
Ça pète plus.
Il va falloir que je prenne d'autres décisions.
Robert oui. Piché, puis son sauvetage, puis son atterrissage incroyable qui a fait les manchettes, est-ce qu'on pense que ça va être un Robert Piché 2, le pilote d'hier?
Moi, j'irais plus avec les agents de bord.
Ah, moi, les héros de cette histoire-là, c'est les agents de bord
oui.
Qui étaient à bord. Essayer de garder le contrôle dans la cabine pour faire une évacuation qui a du sens, ça rate aux agents de bord. Vraiment, c'est eux autres qui ont fait un travail extraordinaire dans des circonstances qui étaient complètement inattendues. On n'a pas le temps de se préparer à ça. C'est complètement pris par surprise, là. Alors vraiment, c'est mes héros de la journée, là. C'est eux. Et aussi, des fois, dans les mauvaises circonstances, il se passe des choses intéressantes aussi. Il y avait un hélicoptère Medevac de la compagnie Orange qui fait le transport héliporté pour l'Ontario, qui était en attente pour un atterrissage aussi, qui a été retenu dans les airs lorsque le crash est arrivé. Et tout de suite, quand le crash est arrivé, ils ont dit « Écoute, nous, là, on est prêts. On est capables de se rendre sur le site de l'accident pour aller porter secours maintenant.
Wow. »
Alors, à l'intérieur de quelques minutes, vous aviez un hélicoptère Medevac avec une équipe de paramédics qui était là. Et ça l'a probablement… Voyons voir comment ces gens-là vont s'en sortir. Mais les passagers critiques, on peut être amenés dans des délais… complètement, pratiquement miraculeux, là, jusqu'à l'hôpital. Donc, c'est tout à fait merveilleux, ça aussi. Donc, dans des circonstances comme ça, le travail des agents de bord, la chance d'avoir un hélicoptère et d'avoir un service héliporté qui est là, ce qui nous manque grandement au Québec, là, d'avoir un service public héliporté.
Ouais.
Une grande chance d'avoir ça sur place. Vraiment, là, c'est chapeau.
Charles-Éric, en 30 secondes, c'est tout ce qui nous reste. Les rapports d'incidents de la part des inspecteurs, bon, quand il y a un gros crash, des fois, c'est 12 à 18 mois. Je trouve ça très long. En même temps, il faut qu'ils reconstituent l'accident au grand complet. Là, compte tenu du fait qu'on a la carlingue, que tout est là et que tout le monde est vivant, ça va être un peu plus court?
Bien, assurément qu'on aura des rapports préliminaires plus rapides. D'après moi, là, dans les prochaines... prochains jours qui vont venir, on va avoir probablement une conférence là, du Bureau de la sécurité des transports qui va nous faire une mise à jour un peu sur ce qu'ils ont récolté comme données. Mais normalement, on va parler d'à peu près un rapport comme celui-là, au moins une bonne année là, avant qu'on aille le rapport sur les conclusions et tomber avec les recommandations par la suite là, du Bureau de la sécurité des transports.
Charles-Éric Lamarche, c'est toujours un plaisir de jaser.
Hey, ça me fait plaisir, la gang. Bon midi.
Merci Salut, beaucoup, merci. Charles-Éric Lamarche, est notre expert en aviation. D'ailleurs, son entrevue sera disponible dans les prochaines minutes sur le site de Boulevard, donc blvd.fm. Puis pour les gens qui n'ont pas encore vu le crash puis qui veulent voir le meilleur angle, c'est vraiment sur la page de Boulevard. Vous allez voir, ça a été filmé par un pilote qui était dans son avion sur le tarmac. Puis il filme l'avion dans son approche puis à l'atterrissage, puis on voit tout ça. C'est terrorisant, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est vivant.
Prends-tu l'avion? Toi, si ça t'arrive?
Oui, sans aucun problème.
Le lendemain?
Le lendemain?
Tu sais, est-ce que tu fêtes ton sentiment de peur et traumatisme ou tu te laisses un petit break de voyage?
Laisse-moi le temps d'aller prendre une bière.
Il s'en va à Bas-Saint-Paul.
On repartira demain. Denis Gravel s'en vient dans les prochaines minutes pour le Pit Stop. D'ici là, si vous avez quoi que ce soit à nous dire, c'est par texto tout le temps, 418-971-101. Merci d'être là.